Bonjour Jean-Louis Touraine.
Bonjour.
L'examen en deuxième lecture du projet de loi bioéthique a commencé hier à l'Assemblée nationale. Y avait-il une véritable urgence à mettre ce texte à l'agenda de l'Assemblée en plein été, alors que nous sortons tout juste du confinement et que le gouvernement ne cesse d'affirmer que sa priorité absolue, c'est l'économie?
C'est une loi attendue. Elle aurait dû normalement être promulguée il y a 2 ans.
Oui, mais il y a eu des événements depuis.
Exactement. Mais vous voyez, il y aura toujours des événements. Une succession d'événements, et le dernier a été cette crise sanitaire, ont amené à retarder la deuxième lecture de cette loi. Donc nous arrivons aujourd'hui à cette phase dans des conditions très sereines, puisque l'examen a été analysé à de nombreuses reprises pendant les 2 années écoulées par les députés qui connaissent tous les articles de la loi. Et beaucoup de gens attendent. Bien sûr, des femmes attendent cela pour pouvoir constituer leur famille. Mais à côté de ça, il y a des dispositions aussi pour les malades qui attendent de pouvoir avoir une transplantation et dont il faut faciliter l'accès à ce traitement parce que beaucoup de malades attendent et que la crise elle-même a empêché beaucoup de malades d'être traités. Il y a les tests génétiques, il y a la possibilité de faire le diagnostic sur le nouveau-né de tout un tas de maladies qui peuvent être guéries si elles sont traitées à la naissance, alors qu'elles sont mortelles si on les diagnostique qu'à l'âge de 1 ou 2 ans. Il y a comme ça des dispositions multiples dans cette loi qui sont devenues urgentes. En gros, c'est une loi, si vous voulez, qui transcrit dans la pratique, qui rend réalisable tout un tas de progrès médicaux qui sont principalement issus des recherches du XXe siècle avec des possibilités diagnostico-thérapeutiques nouvelles qui sont appliqués dans la plupart des pays autour de nous,
mais pas encore en France.
Et donc, évidemment, les Français n'attendent pas d'ailleurs toujours de façon passive. De très nombreux Français sont allés en Belgique, en Espagne ou ailleurs pour réaliser ces choses. Mais à leurs frais et dans des conditions qui ne sont pas optimales, il vaut mieux que ça se passe bien encadré en France.
Alors c'est vrai que c'est la PMA dont on parle le plus, la procréation médicalement assistée, parce que c'est l'article du texte qui divise le plus, qui crée le plus de polémiques. Dans une interview au magazine Têtu, vous avez dit, je vous cite, « Il faut une énorme dose d'amour pour faire ce parcours du combattant qu'est une PMA. Les enfants qui en sont issus ont souvent plus de chances d'épanouissement que les autres. » Ça veut dire que vous considérez que les enfants nés dans ces conditions commencent la vie avec un avantage sur les autres?
Je parle de tous les enfants qui sont nés après PMA, dans le sens où ils sont très fortement désirés, ils sont attendus pendant parfois plusieurs années, parce qu'il faut répéter les tentatives pour avoir le succès, et quand ils arrivent, eh bien, c'est comme le Messie. Ils sont espérés, attendus, la chambre est prête, les cœurs des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, tout le monde est prêt à accueillir cet enfant, et il y a une dose d'amour, évidemment. Les enfants sont choyés, l'objet de beaucoup d'attention, et vous savez, un enfant qu'on aime et dont on s'occupe beaucoup, eh ben, il va aller mieux que celui qui est oublié dans sa chambre. Et donc, évidemment, l'ensemble des enfants... Alors, ensuite, il y a eu de nombreuses études, surtout d'ailleurs chez les anglo-saxons, mais très nombreuses, pas une seule étude n'a montré que ces enfants étudiés jusqu'à l'âge adulte ont une quelconque différence, qu'ils soient nés de PMA dans un couple homoparental ou dans un couple hétéroparental. Et donc, voilà, sur ces résultats-là, on se dit, ce sont des chances que l'on donne à ces enfants.
Certains adversaires de la PMA disent que les enfants nés par ce processus ont des fragilités sur le plan de la santé que les autres n'ont pas. Est-ce que c'est vrai ?
Non, non.
Ce sont des propos qui sont totalement faux.
Oui, il n'y a pas de différence.
Vous avez lu ça, vous avez entendu
ça
aussi.
Bien sûr, et nous sommes en contact avec l'ensemble des équipes qui les réalisent. Non, ce qu'il y a par contre, qu'il faut reconnaître, c'est que le taux de succès est encore faible. Oui. Donc, dans la majorité des cas, ce ne sont pas les premières tentatives qui sont suivies de résultats positifs. Mais il n'y a pas de résultats négatifs. Il y a le même taux de maladie chez les enfants nés dans les conditions naturelles ou les enfants nés par PMA.
Alors, il y a une nouveauté qui a été introduite en commission et qui suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est ce que l'on appelle la ROPA. C'est en fait la possibilité, dans le cadre d'un couple de femmes, pour une femme de faire un don d'ovocytes à sa conjointe. Les opposants au texte disent que c'est la porte d'entrée vers la GPA, la gestation pour autrui. Est-ce qu'ils ont un peu raison ?
Pas du tout.
C'est pas une forme de gestation pour autant,
non,
ça?
Non, pas du tout, pas du tout. J'ai un immense respect pour ceux qui pensent différemment, et à l'Assemblée nationale, les choses se passent très bien entre les traditionalistes, si vous voulez, qui ont peur de tous ces progrès, et puis ceux qui, au contraire, veulent donner satisfaction aux malades qui attendent ou aux femmes qui attendent. Mais, en l'occurrence, c'est une anti-GPA. C'est une anti-GPA. GPA, ça veut dire gestation pour autrui.
Oui.
Et là, c'est pas pour autrui, c'est pour la même famille. C'est une femme qui donne ses ovocytes pour sa famille à elle. Pour son enfant, elle donne des ovocytes pour être mère. Donc c'est le contraire d'une GPA. Une GPA, c'est quand une femme porte un enfant pour un autre couple, pour quelqu'un d'autre. Ici, c'est une anti-GPA. Donc ceux qui disent ça, on sait pourquoi ils le disent. Parce que le mot GPA fait peur en France. Mais malheureusement, pour eux, c'est un usage abusif, à contresens du mot GPA. Donc je dirais même, c'est véritablement l'anti-GPA, ouais, et même le moyen pour prévenir le risque de GPA. Maintenant, pourquoi c'est discuté? Ben, c'est évidemment incompréhensible.
Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'y est pas favorable.
Oui, et d'ailleurs, tous les gynéco-obstétriciens se sont exprimés à cet égard et ont dit il n'y a aucune raison autre qu'idéologique pour ne pas le réaliser. Parce qu'en effet, sur le plan pratique, c'est une chose qui est déjà bien codifiée, qui se fait d'ailleurs très couramment, et qui s'est faite en France, naturellement, comme dans les autres pays. Et pourquoi l'interdire aujourd'hui? Constamment, sur le plan de l'éthique, on a considéré que les gamètes d'origine masculine et ceux d'origine féminine devaient être traités de la même façon. Eh bien, il est constant, il est habituel qu'un homme puisse donner ses spermatozoïdes à sa femme, si c'est pas dans les conditions naturelles, pour différentes raisons. Par exemple, s'il a le virus du sida, eh bien, on veut pas qu'il donne ce virus à sa femme. Donc, il va donner ses spermatozoïdes à un laboratoire qui va trier ses spermatozoïdes et les rendre appropriés pour qu'ils puissent être transmis sans véhiculer aucun risque. Et ceci, c'est donc un don de spermatozoïdes d'un mari à sa femme. Eh bien là, c'est un don d'ovocytes d'une femme à sa femme. Et si on ne l'accepte pas, c'est un peu une forme de discrimination contre les femmes homosexuelles qui, évidemment, se rebelleraient si cette disposition n'existe pas. Alors, pour l'instant, cette disposition, elle est inscrite dans la loi. La commission
mais
a été...
Vous craignez que le gouvernement ne la supprime?
Le gouvernement va proposer de la supprimer, mais ce sont les députés qui, en définitive, décideront. Or, en commission, les députés ont voté favorablement cette disposition.
Mais le texte repassera à l'automne au Sénat.
Ah, le Sénat va sûrement l'enlever, mais l'Assemblée
a le dernier mot.
Oui.
Merci Jean-Louis Touraine. Bonne journée.